vieux pas.
Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM et DAB+. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes trois. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut à tous.
Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parcourir l'actualité ludique ensemble avec plusieurs points. On partira un peu dans l'univers musical en parlant de vinyle. On fera un petit passage par le jeu vidéo et, comme d'habitude, de la musique. Alors, il y a un événement qui va se passer très prochainement. Alors, la semaine dernière, on avait déjà parlé d'une vente aux enchères. Alors, c'était Julian's Auction qui permettait d'acheter des éléments qui avaient appartenu à des grandes stars, soit du cinéma, soit de la musique, soit du sport. Et il y a des nouvelles ventes aux enchères organisées cette fois-ci par un site français, c'est Europe 1, qui met à disposition des vinyles.
En fait, ils revendent leur discothèque. Enfin, j'imagine que c'est qu'une partie de leur discothèque. Et c'est mis en vente par Drouot, la maison de vente aux enchères bien connue. Enfin, à partir du samedi 28, les lots sont en vente pour je ne sais pas combien de temps. Et on peut aller s'amuser, alors peut-être pas acheter les disques, mais visiter le catalogue pour visiter un petit peu l'histoire du vinyle en France pratiquement.
Alors, contrairement à la semaine dernière où généralement les enchères étaient aux alentours de $600 jusqu'à 30 000.
Tout petit minimum.
Ici, on est dans des prix un peu plus raisonnables, sachant qu'on a des vinyles qui peuvent être rares. Et on a des estimations qui tournent autour de la cinquantaine, la centaine d'euros, ce qui peut correspondre à certaines personnes.
Alors je ne sais pas combien il y a de vinyles de disques en tout, mais il faut savoir que c'est découpé par lot. Il y a 335 lots, dans certains lots il n'y a qu'un seul disque, dans certains lots il peut y avoir 20 ou 30 disques. Donc faut s'amuser à parcourir tous les lots et à chercher les trésors. Ils sont classés à peu près chansons françaises, génériques, chansons rock, pop, jazz, musique expérimentale, etc. etc. Et il y a peut-être quelques surprises à la fin même.
Et on va découvrir ça ensemble puisque le thème du back-to-back d'aujourd'hui sera un élément qu'on a pioché au hasard dans cette liste. Et on risque d'avoir de belles surprises, surtout lorsqu'on tape dans l'expérimental. Il y a des titres qui ont été imprimés sur vinyle, où on entend des bruits de Larsen et quelques bruits un peu psychédéliques, mais sans avoir réellement de musique. Alors la grande question, c'est qui écoute ça? Et à quel moment on écoute ça?
Ceux qui la composent. C'est ça, la musique expérimentale, la musique concrète.
Voilà, elle s'adresse peut-être à des gens du futur qui auront une audition différente de nous, qui sait. Est-ce qu'il y a des lots qui vous ont un peu interpellé dans ces enchères?
Il y a pas mal de lots sur les bandes originales de films, donc ça fait toujours plaisir de revoir des vieux vinyles qui ont été sortis pour des films qui datent maintenant, parce que ce sont des vieux films, donc ça te rappelle pas mal de choses sur ce que t'avais vu à l'époque, quoi.
Et c'est pas forcément pour la musique elle-même, parce que le disque, bah, tu vas peut-être pas l'écouter, même s'il est en bon état, parce que la musique, tu l'as peut-être ailleurs en meilleure qualité, mais c'est surtout pour la pochette, retrouver les affiches, enfin, vraiment pour l'objet, quoi.
Ouais, pour le côté graphique de l'époque.
Alors, l'expression, heureusement, en France de cette année, c'est que le vinyle a le vent en poupe. Et c'est vrai que ça fait quoi? Ça doit faire environ 5 ans, je pense, depuis l'apparition des platines vinyles qu'on peut brancher soit en USB ou assez facilement en auxiliaire. Ça a un peu relancé l'univers du vinyle. Et c'est depuis que le CD un peu a perdu de sa vigueur, parce que c'est un support qui disparaît petit à petit, enfin je l'espère. Hein. On peut voir ça notamment sur votre PC. Normalement, vous n'avez plus de lecteur CD depuis un petit moment. Le vinyle, du coup, devient un peu le support pour écouter de la musique de façon un peu puriste, hein, pour avoir le meilleur son non compressé comme on peut l'avoir sur YouTube. Et il y a un aspect aussi de collection, hein, puisque généralement, les gens vont acheter un vinyle, vont bien l'afficher, soit dans une bibliothèque ou lorsque vous en avez des centaines et des centaines, bon, là, vous avez des bacs. et vous en piochez un de temps à autre. Est-ce que vous avez des vinyles?
Ah oui, moi j'en ai quelques-uns qui sont précieusement, qui sont à l'abri. Je n'ai pas de quoi les écouter, mais c'est vrai. Enfin, faut dire que je les ai tellement écoutés avant que je les connais par cœur, c'est pas la peine. Moi, dans les lots que j'ai repérés, il y a, dans les lots 120, etc., il y a des génériques de dessins animés, de séries, Chapeau Melon, Bottes de Cuir ou Le Saint, par exemple. Et alors, il y a un lot qui m'a bien plu, c'est le lot 131. T'as 5 disques assez originaux. T'as une version spéciale du thème de la série Batman. T'as le thème de la série Le Fugitif, ça c'est connu. T'as une chanson qui est chantée par Linda Thorson, c'est une des actrices qui jouait dans Chapeau Melon Bottes de Cuir. T'as des trucs un peu fous. Et en plus, t'as le générique du film Trafic de Jacques Tati, je sais pas ce qu'il fout là, mais comme c'est un de mes films préférés, j'avoue que le lot 131, estimation entre 40 et 80 euros, j'hésite.
Alors, sachant que c'est des enchères, hein, on peut peut-être l'avoir en dessous de l'estimation, comme on peut l'avoir à 6 fois le prix.
Ah, sinon, dans les lots, bien sûr, j'ai tout de suite cherché s'il y avait du Alan Kahn. Ah. Et il y en a. Il y a du Alan Kahn.
Il y a du Alan Kahn, mais il n'y a pas l'album, heureusement, en France.
Et donc, oui, il y a du Alan Kahn, c'est le lot 55. Estimation entre 60 et 120 euros. Il y a 5 disques, dont 3 de Alan Kahn, des 45 tours. Mais il n'y a pas, effectivement, heureusement, en France. C'est vraiment des lots qui datent du début des années 60, du début de sa carrière, où il ressemblait encore à quelque chose.
Alors, je viens de recevoir un message de Pierre-Yves, qui était avec nous dans l'émission de la semaine dernière, qui, lui, est fortement intéressé par le lot numéro 12, hein, la collection des premières chansons et des premiers albums de Chantal Goya en vinyle. Voilà.
Il y a trois magnifiques, c'est les 45 tours, ouais, c'est ça. C'est sympa parce qu'on la voit en pochette et il y a une pochette où on la reconnaît, mais j'avoue que les autres pochettes, elle a déjà sa coiffure presque traditionnelle
c'est difficile, ouais. Et à mon avis, c'est avant son portage vers les musiques pour enfants.
Peut-être même avant qu'elle rencontre son mari Jean-Jacques Debout.
C'est vrai que le premier vinyle, tu n'aurais pas le titre Chantal Goya dessus, elle est, je la reconnaîtrais pas. Par contre, les deux autres, oui, elle a déjà la coupe et elle est beaucoup plus reconnaissable.
Ouais, est-ce que c'est pas un peu sa coupe de cheveux qui a fait son succès, un peu comme Mireille Mathieu, hein? Grande question. Alors, on parlait du marché du vinyle, hein, qui reprend de la vigueur, mais malheureusement, c'est pas forcément pour ceux qui sont restés à ses côtés depuis plusieurs années, puisque on a des disquaires qui ont vendu des vinyles, hein, de ça depuis 20-30 ans, qui n'ont pas eu des périodes très faciles, puisque beaucoup de gens s'étaient tournés vers d'autres supports tels que le CD ou la musique même dématérialisée. Maintenant que ça revient, bizarrement, ce ne sont pas eux qui vont profiter de cet élan de consommation pour le vinyle.
C'est un peu logique parce que c'est vrai qu'effectivement, quand pas grand monde ne cherchait des vinyles, c'est vers eux qu'on se tournait. Donc les collectionneurs et les DJ principalement, ils avaient leur point de référence, effectivement, les disquaires indépendants. Et maintenant qu'on peut en trouver partout, mais c'est normal qu'il y a moins de monde qui est chez eux.
Et on a des grands distributeurs tels que la Fnac qui sortent la grande puissance de feu, puisque ils se sont mis donc à acheter de plus en plus de vinyles, à faire des rééditions des albums favoris des gens, notamment dans le rock et dans le pop-rock.
C'est assez affolant parce qu'effectivement, je me souviens il y a quelques années, on se baladait à Fnac, donc il y avait encore des vinyles, le CD apparaissait, on a vu le CD apparaître, on a vu les vinyles disparaître, et puis maintenant on voit les vinyles réapparaître dans la Fnac, mais effectivement, c'est des vinyles rééditions. Ils sont tout beaux, ils sont tout propres, mais c'est des rééditions de vieilles albums, donc c'est pas les originaux, mais bon, pour se faire plaisir, pourquoi pas.
Il y a même eu une époque où, quand tu parlais des platines vinyles pour mettre en USB, par exemple sur un PC ou autre, il y a juste avant, quelques années avant, tu avais aussi une platine qui mettait, où tu pouvais mettre une clé USB dessus pour que ton vinyle se mette en MP3. T'avais une qualité dégueulasse, certes, c'était les premières platines vinyles qui te permettaient ça, mais ça avait relancé un petit peu le côté vinyle à cette époque-là. Et effectivement, à la Fnac, t'avais eu des packs entiers de vinyles neufs qui étaient bradés, parce que personne les prenait aussi. Et t'avais des vinyles à 15-16 euros qui étaient bradés à 5 euros devant les caisses, parce que ils avaient déjà fait une tentative à ce moment-là et ça n'avait pas fonctionné.
Rien que pour la pochette, hein, à la limite.
Et c'est ça. Et si on regarde bien, il y a de ça quelques mois, on avait fait un peu une expérience. On avait été à l'Hirondelle, à Lille, où il y avait justement plusieurs disquaires qui étaient présents et où on pouvait un peu feuilleter comme ça des vinyles à prix des fois très réduits. On s'était pris à se, même nous, à en racheter et même les diffuser sur les belles platines de Radio Campus. Et c'est vrai que c'est un plaisir un peu rétro et un peu de collection.
Mais c'est vrai que c'est pas pratique parce qu'il faut se trimballer avec ça. Tandis que quand tu viens à la radio avec ta clé USB ou ta playlist, ça, c'est un petit peu plus pratique.
Après, moi, je pense que l'encodage vinyle peut être intéressant. Vous pouvez réécouter vos CD avec le petit grain comme ça, mais que vous avez réencodé par exemple en FLAC, c'est tout à fait potable. Alors, on parlait de la FNAC qui s'attaque comme ça au vinyle, et ce qui est assez intéressant, c'est on va prendre un exemple qui est un vinyle de Radiohead, un vinyle qui était sorti en édition limitée. Ils avaient décidé, donc, lors de la diffusion en 2016, en France, de ne le distribuer qu'auprès de 8 éditeurs. Sauf que certains éditeurs n'ont jamais reçu les vinyles comme promis et quelques mois plus tard ont retrouvé ces vinyles sur le site de la FNAC. Donc un peu comme je vous souvenez lorsqu'il y avait le premier confinement, il y avait les États-Unis qui avaient racheté un peu des masques sur les quais de Chine et les avaient pris à un marché qui était destiné à la France. Et ben là, il s'est exactement passé la même chose sur le vinyle de Radiohead. Ils ont fait une pression auprès des producteurs de vinyle pour les récupérer et un peu les voler à ceux qui étaient sur la liste, quoi. Ça peut aussi avoir du bien, puisque forcément, si vous créez de la musique, vous allez vous tourner vers quelqu'un qui va les distribuer de façon un peu massive. Vous avez plus de chances, lorsque vous faites un vinyle, de le vendre sur un site tel que la FNAC, plutôt que dans un petit revendeur au coin de rue. Surtout qu'en ce moment, ces revendeurs sont fermés.
Ah, c'est le souci, en fait, parce que là, sur la ville de Roubaix, t'as un restaurant qui s'appelle le Manche Disque. Pourquoi ? Parce qu'on ne mange pas les vinyles, c'est juste un restaurant qui est couplé avec un disquaire, et pendant qu'on peut aller boire une bière ou manger quelque chose, on peut farfouiller dans les vinyles et profiter du moment, écouter de la musique. Et c'est vrai que depuis que le confinement est mis en place, il n'est plus possible. On peut sûrement encore aller prendre de la restauration emportée, mais le disquaire lui est fermé, alors que c'est un très bon disquaire et il fait découvrir des nouveaux morceaux à chaque fois, des groupes, hein, c'est vraiment excellent.
Alors que tu avais fait une commande que tu n'as pas reçue.
Ah ben, détrompe-toi, j'avais fait la commande, j'en avais parlé une fois lors d'une émission, le vinyle de Iron Maiden, du tout premier album d'Iron Maiden, qui est le nom éponyme, qui avait été tiré pour le 40e anniversaire de la sortie de l'album, qui est donc une édition limitée. Qui a été édité en Angleterre puis dans les autres pays. Je lui ai fait la demande et pile un jour il s'est débrouillé pour l'avoir, mais pile le jour du confinement il m'a appelé et puis j'ai pu aller le prendre avant qu'il puisse fermer. Donc c'est vraiment démené pour il s'est démené pour me trouver le vinyle avant justement que lui il ferme et que pendant X semaines et que le vinyle reparte on ne sait où.
Je disais, moi, ce qu'il faudrait que je trouve, c'est une platine qui fasse à la fois vinyle et cassette. Comme ça, je pourrais encoder mes vinyles sur des cassettes pour les écouter. J'ai pas envie de les écouter, de les encoder en MP3 ou en CD. Ça, je pourrais écouter sur un Walkman mes cassettes enregistrées des vieux vinyles.
Ou alors
j'ai
faire l'inverse.
Plein de cassettes chez moi. J'ai plein de cassettes chez moi et c'est des cassettes qui ont été encodées à base de vinyle.
Alors, c'est vrai qu'on connaît une autre émission qui essaie de remettre comme ça au goût du jour les cassettes. C'est plus difficile qu'avec les vinyles quand même. Hein, parce que les vinyles, vous avez un petit côté collection et où vous pouvez même afficher ça sur votre mur. Alors que les cassettes, pense que...
Ouais, mais les cassettes, tu peux les personnaliser quand t'as enregistré. Tu peux écrire toi-même les titres. Le plaisir de recopier à la main les titres sur le petit bout de papier de la cassette et de personnaliser tes cassettes, ce que tu peux pas faire sur un vinyle.
Après, les cassettes, ça vieillit très très mal. Hein. T'as la bande qui peut être distendue, qui peut être fragilisée. Enfin,
ouais, mais justement, ça veut dire c'est un objet vivant.
Ah oui, pas de problème. Mais au niveau qualité du son, tu risques d'avoir un souci alors qu'un vinyle, tu peux...
Tu obtiens des musiques expérimentales, c'est tout.
Voilà, et tu fais le revendre aux enchères, quoi.
pour ceux qui
le
veulent,
aux enchères.
Ouais, c'est ça. Pour ceux qui veulent de la musique expérimentale, alors donc, j'ai dit qu'il y a 335 lots, ça commence au lot 313. Voilà, bon courage. Je vous conseille d'aller voir, de recopier les noms, d'aller chercher la musique sur un site de musique ou de vidéo, comme vous voulez, et vous allez avoir des surprises. Et si vous avez le courage d'aller jusqu'au lot, donc il y a la musique expérimentale, la musique folk, et alors le lot 323 est génial. Je pense qu'il y a du monde qui va se battre pour ça, parce que c'est le lot discothèque, qui s'appelle Discothèque Idéale. Il y a 21 disques dedans, et dans ces 21 disques, donc le total, le lot est estimé entre 120 et 241, ben en fait c'est que des classiques. Tu as Imagine de John Lennon, c'est que des 33 tours apparemment, t'as Free, t'as le Velvet Underground, t'as dû avoir du Beatles, il y a du Rolling Stone bien sûr, du James Brown, les Doors. Et il y a du David Bowie, bien sûr, enfin, que des albums presque incontournables. Le Bruce Springsteen and the E Street Band Live 75-85, tu vois, que des trucs comme ça.
Alors, pour ma part, celui qui m'a le plus intéressé, c'est le lot surprise. Hein, c'est 70 disques, 33 tours, sélectionnés par un expert, incluant quelques obscurités. Alors, le prix, du coup, peut être au prix d'un seul CD, donc, enfin, d'un seul CD, pardon, d'un seul vinyle. Ça peut être intéressant, comme ça, d'avoir des petites surprises.
Les lots surprises, il y en a plusieurs. Ça commence au 324, et ça va jusqu'au 334, normalement. Et il y a, à chaque fois, entre 70, 135 disques, 45 tours. Des fois, il y a du mélange, 33 tours, 45. Et c'est sélectionné par l'expert. On ne sait pas, mais il y a une estimation, mais bon. Et il n'y a pas de photo, donc c'est là, ça va être la surprise.
Après, je
moi, j'ai bien envie de mettre là-dessus.
Ouais, moi, ce serait plus le lot 307, qui est un lot sur le hard rock. T'as 7 vinyles dedans, un de Metallica, un d'Aerosmith, un de Motorhead, et t'as du Black Sabbath, t'as Judas Priest, c'est voilà. Je pense que c'est un lot qui est estimé entre 70 et 130 euros. Je pense qu'il va partir plus loin, vu les groupes qu'il y a dedans. Mais je vais surveiller ça.
Est-ce que ça tombe, ces albums ont eu des rééditions sur des gros vendeurs. Donc,
ouais, par contre, c'est des sept disques de 33 tours. C'est-à-dire que c'est pas juste un morceau, c'est des albums.
C'est pour les objets, c'est pas pour la musique.
Ah bah oui.
Le lot 308, juste après, est sympa. Hein. T'as du hard rock, mais en fait, c'est Trust. T'as un lot Trust, 45 tours, je crois que c'est 45 tours de Trust.
Ouais.
Mais François, il va craquer pour lui, pour le 306. 545 tours de Noir Désir.
C'est clair. J'ai pas voulu le remettre sur le tapis, mais oui.
Vous savez que cette émission est enregistrée, donc je peux couper au montage.
Oui, mais tu ne feras pas, t'es joueur.
Non, mais par contre, je pense que dans l'univers du vinyle, il doit avoir aussi un côté d'édition, hein, qu'on a dans les bouquins, qu'on a dans les jeux vidéo. Si votre vinyle date de la première édition, de la première impression, il a plus de valeur. Et c'est pour ça, est-ce que vous avez vu, par exemple, cette édition de Super Mario Bros. 3, qui était encore scellée, qui s'est vendue à 114 000 dollars.
Oui, dans le monde du jeu vidéo, c'est la même chose. Si le jeu, la cartouche est encore dans la boîte et que la boîte est... En fait, même sur le marché, si t'as une cartouche de jeu vidéo et la même cartouche avec la boîte, le prix est peut-être multiplié par 10 pratiquement.
Alors, il y a ça, mais surtout parce que c'était une des premières éditions où le mot « bros » est tout en bas à gauche, alors que d'habitude, il est écrit en grand. Donc, ça prouve que c'est une des premières éditions. Comme elle est scellée, elle s'est vendue à... Bah, c'est quoi? C'est 96 000 euros. C'est énorme. Pour une boîte de jeux vidéo, Super Mario Bros., qui était vendue à je ne sais pas combien d'exemplaires.
Il suffit que la boîte soit vraiment dans un état impeccable, que comme elle n'a pas été enlevée au niveau du film plastique, t'as toutes les inserts qui se trouvent à l'intérieur avec la notice du jeu, enfin... C'est normal qu'elle parte à ce prix-là, que les collectionneurs payeraient un prix fou pour ça.
Est-ce que vous avez des objets que vous considérez de collection chez vous?
Oh, sûrement.
Je pense que des personnes peuvent venir et dire « Ouah, t'as ça, c'est super !» Alors que moi, je vais dire « Bah ouais, je l'ai, mais je m'en fous. »
Autour de moi,
mais ouais.
Oui, sûrement. Alors celui qui vient chez moi pour le trouver, il a du courage. Que même moi, je ne saurais pas le trouver, donc...
Dom, c'est plus qu'est-ce qui n'est pas de collection chez moi, c'est ça?
Non, c'est pas ça. Après, ça dépend, tu peux avoir un truc auquel tu tiens et qui en fait n'a aucune valeur, c'est compliqué. Quoi.
Alors, Dominique, soyons transparents, on a décidé de faire un random sur la musique que nous allions choisir.
Salut.
Et tu avais fait un random à 318 et on s'est retrouvé avec de la musique expérimentale très difficile à écouter parce que on n'appelle pas ça de la musique déjà de 1.
Écoutez, oui, mais on ne va pas infliger ça aux auditeurs de Radio Campus.
Voilà, déjà qu'on abuse souvent.
C'est surtout que l'auditeur qui tombe au moment où on passe ce morceau-là va se dire « Tiens, ma radio est en panne, il va l'acheter. » Alors que non.
C'est ça. Ou sa voiture est en panne s'il écoute dans la voiture. Enfin, c'est terrible. Donc, on t'a laissé l'opportunité de faire un deuxième jet. Alors, je te laisse présenter l'artiste qui, mine de rien, est en relation avec les différents artistes que tu nous as passés récemment.
Donc effectivement, donc j'ai tiré au sort entre 1 et 335, et mon deuxième lancer de dés est tombé sur le lot numéro 292. Alors là, il n'y a pas le choix, il y a un seul vinyle, un 45 tours. C'est le lot donc 392 Pop Rock, Os Mutantes, avec un pressage et pochette française, s'il vous plaît. VG, c'est l'état, donc c'est-à-dire qu'il est en très bon état. Il y a juste quelque chose d'écrit au dos sur la tranche.
Ne pas écouter. Notation,
j'imagine, mise par un technicien. En gros, c'est de la psyché brésilienne. Et effectivement, le nom Os Mutantes me dit quelque chose. Et oui, c'est un groupe brésilien qui a commencé dans les années 60. Ils ont fait beaucoup de collaborations avec d'autres artistes plus connus, des artistes brésiliens. C'est pour ça que j'ai déjà vu leur nom passer dans des musiques. C'est marrant. Donc, effectivement, puisque la semaine dernière, j'ai passé une chanson de Pelé. Donc, un chanteur brésilien bien connu. Plus connu pour le foot que pour la chanson, mais bon. Et donc, c'est la deuxième fois. Et c'est un morceau qui date de 1969. Et ça tombe bien parce que c'est l'âge de Radio Campus. Donc, c'est parfait. Donc, on va écouter Os Mutantes. Je vais essayer de redire le titre.
Caminante Noturno.
No chão de asfalto é um sapato, piso silêncio, caminhante noturno. We'll be right back.
C'est qu'est-ce qui j'en aime Sombre Ma esquina Alguien Maya Piso silêncio Caminhante Noturno
Foge
C'était Os Mutantes avec Caminante Noturno, un titre de 1969 que nous avons choisi complètement au hasard dans cette
liste. Le hasard fait bien les choses. Notez que le groupe s'est dissous en 1978 et il se reformait en 2006 et apparemment il continue à tourner avec des nouveaux albums.
Il y a un événement qui a démarré cette semaine, c'est la fête de l'anime à la maison. Alors, comment est-ce que ça marche? C'est un événement qui a démarré et qui va durer jusqu'au 6 décembre. Donc, on a encore le temps de participer. La fête de l'anime à la maison, ça va vous permettre de découvrir notamment des courts-métrages et du cinéma d'animation, c'est ça?
C'est ça. Bon, c'est un événement qui a lieu depuis des années maintenant. À Lille et dans toute la région, et en général c'est dans les salles de Lille et de la région qu'on peut aller voir. Il y a des nuits de l'animation, il y a des expositions, il y a des auteurs qui viennent présenter leurs travaux, etc. Il y a des ateliers pour les enfants, mais forcément avec le confinement, on peut pas aller dans les salles, on peut pas se réunir, donc ils ont décidé de faire un petit peu, alors pas forcément en ligne, mais on reste chez soi. Mais il y a des tas d'exemples d'idées assez intéressantes. Par exemple, donc ça a commencé le mardi 24, la plupart, c'est jusqu'au dimanche 6 décembre pour la plupart des événements. Donc on peut trouver ça sur fête-anime.com, anime sans E. Et je prends un exemple à Lille et Amiens, du 25 au 6 décembre, il y a ce qu'on appelle Anime au balcon. Et en fait, il y a des véhicules équipés de vidéoprojecteurs qui vont passer dans les rues les soirs et qui vont projeter les courts-métrages sur les murs. Sur les murs de la ville, donc tu pourras regarder depuis ta fenêtre. C'est une façon originale d'aller au cinéma.
C'est génial. Sauf quand t'es celui qui sur le mur où ça projette.
Ah, mais ça.
Là, tu vois pas grand chose.
Et puis que tout le monde t'appelle pour fermer ta lumière de fenêtre parce que ça gâche la vidéo. Tu fais,
C'est là que l'exhibitionniste
C'était pas prévu dans l'image, mais bon, allez.
Il y a aussi d'autres façons de découvrir un film. Alors d'ailleurs, il y a d'autres supports sur lesquels on peut regarder un film, notamment des casques de réalité virtuelle.
Effectivement, ouais, ils proposent à la location, je suppose que c'est un prêt plutôt qu'une location, de casques réalité virtuelle. Pardon, soit on va le chercher quand on est à Lille à l'hybride, qui est rue Gosselet, ou alors ils peuvent le livrer si tu habites à Lille, ils peuvent te le livrer chez toi le mardi soir, et ils le récupèrent le mercredi soir dans les entours des mêmes horaires, donc je trouve que c'est 17h-20h, et dans ce casque réalité virtuelle, il y a 5 petits courts-métrages, plus ou moins différents les uns des autres, pour que les personnes puissent voir l'animation qui se passe, mais vraiment pas autrement qu'avec un PC, quoi.
Mais effectivement, alors c'est disponible à Lille et à Amiens, mais tu as 5 films qui sont fournis avec, et il y a une fiche qui t'explique comment ça marche, mais après, une fois que tu as le casque, tu peux très bien aller voir toutes les autres applications, tous les sites qui proposent du contenu. Sur Arte, par exemple, ou sur YouTube, on trouve des films en VR spécialement dédiés pour ce type de casque, donc ça permet de s'initier. J'imagine qu'à l'origine, ça devait être une exposition où on pouvait venir essayer les casques VR, mais comme c'est pas possible, ils décident de... Cette fois, c'est les casques VR qui vont venir chez toi, pour que tu puisses les tester et te rendre compte de ce que ça fait.
Ouais, en plus, tu te dis, bah, on va me prêter un casque VR, mais que d'autres personnes auront mis, alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est peut-être pas forcément... Enfin, les personnes auront peur, mais ils le mettent tout de suite en avant, c'est qu'ils ont un respect de protocole sanitaire avec tout ce qui concerne les UV, nettoyage, enfin, vraiment propre, il n'y a aucune problématique au niveau virus là-dessus.
Et tu peux changer facilement la couverture du casque, en fait, hein, la protection, ce qui te permet, bah, voilà, de pas avoir un casque VR qui contient toute la sueur de celui qui l'a utilisé juste avant.
Bah, parce qu'ils fournissent les sacs à vomi avec. Alors, pour certains films...
Alors, il faut aussi dire que la réalité virtuelle s'est beaucoup améliorée. Lorsqu'on voit les premières éditions des casques de réalité virtuelle, c'est vrai que ça donnait un peu un sentiment de mal-être, hein, lorsqu'on jouait ou qu'on regardait un film. Et pareil, pour ceux qui ont des PlayStation, par exemple, c'est vrai que les casques de réalité virtuelle de Sony ou autres sont un peu bas de gamme comparés à ceux de Vive ou de l'Oculus. Si vous avez testé le casque de réalité virtuelle, je vais dire, il y a plusieurs années, il serait peut-être intéressant de lui redonner une chance, parce que c'est une technologie qui fonctionne plutôt bien maintenant. Alors, je viens de citer la PlayStation, et c'est dans l'actualité... Il y a eu la sortie de cette magnifique console, hein, dont on ne raffole pas du tout parce que nous ne sommes pas des joueurs de console, mais la PlayStation 5 vient de sortir. Avec elle, beaucoup de polémiques. Alors, la première, c'est que il est très difficile d'obtenir actuellement une PlayStation dans son foyer. Et on s'est aperçu que s'il y a eu des ruptures de stock, c'est notamment à cause de bots. Puisque des personnes ont senti, hein, que les gens allaient se ruer sur la PlayStation et ont développé des intelligences artificielles qui ont, dès qu'une réservation était possible, un bot allait poser la réservation. Ce qui fait qu'ils ont acheté, voilà, des dizaines, des quinzaines ou même des centaines de PlayStation 5 pour les revendre ensuite sur des marchés de particuliers jusqu'à... j'allais dire le double du prix, mais quelquefois c'est beaucoup plus. Actuellement, le prix officiel est de 400€, et nous avons des offres sur les ventes aux particuliers qui montent jusqu'à 700, voire 1000€.
C'est le Black Friday à l'envers.
Voilà, c'est le White Friday. J'ai d'ailleurs un ami qui souhaitait avoir une PlayStation, je lui ai fait une commande, puisqu'il y avait un Auchan qui, bizarrement, lui, avait des PlayStation disponibles, et j'ai reçu un email quelques heures plus tard m'indiquant que, suite à un bug informatique, la PlayStation avait été mise comme disponible alors qu'elle ne l'était pas vraiment. C'est pas la seule chose, hein, qui a posé défaut ici pour la sortie de la PlayStation, c'est également que des personnes qui l'avaient précommandée sur les sites tels que Amazon ont reçu un carton qui faisait le bon poids, mais ils se sont retrouvés avec des sacs de riz, une friteuse ou de la bouffe pour chat. Il y a une investigation qui est en cours sur Amazon, il semblerait que les livreurs se soient servis un peu dans les colis. Fort heureusement, Amazon rembourse les gens.
T'as pas commandé sur Amazon, c'est bien fait.
fallait aller sur la boutique du
T'as
coin.
T'as qu'à aller chercher ta PS5 chez ton libraire indépendant.
En click and collect, mais il l'avait pas disponible, donc c'est pas grave. Pour couronner un peu la cerise sur le gâteau, c'est que les personnes qui ont lancé leur PlayStation se sont retrouvées, pour certains, avec une avalanche de bugs, rendant l'utilisation de la console impossible. Des fois, elle se met à lire le Blu-ray d'une façon sporadiquement frénétique, ce qui fait que vous avez l'impression qu'elle va surchauffer, voire même exploser.
Il y a encore des lecteurs de disques dans les consoles maintenant ?
Alors, la PlayStation 5, effectivement, propose un Blu-ray. Alors,
c'est
à ma grande surprise également.
Des films.
Après, tu as un côté qui est au niveau du jeu vidéo, en tout cas, où tu as les collectionneurs de jeux vidéo qui font des full sets ou qui aiment avoir l'objet du jeu vidéo, le mettre sur une étagère derrière leur PC, leur console et compagnie. Pour eux, console égale jeu en boîte. Donc forcément, tu auras encore des lecteurs, ne serait-ce que si la console peut faire de la j'allais dire de la rétroconversion, mais reprendre des vieux jeux des consoles précédentes pour les mettre sur la console nouvelle génération, pour éviter que le joueur doit tout racheter. Donc tu... même si maintenant c'est plus le cas, hein, préfère te non faire tout racheter.
Quel vendeur va se dire « Oh, je vais pas quand même faire racheter, je vais pas faire dépenser ma communauté à nouveau quand même. »
Non, surtout qu'à l'époque, alors si je dis pas de conneries, la PlayStation 2, tu pouvais encore jouer avec les jeux PlayStation 1 dessus. Pareil pour la Xbox 360, tu pouvais jouer sur les jeux de la Xbox. Il y avait quelques rares jeux qui plantaient. Mais maintenant, c'est... tu veux jouer avec tes vieux jeux, bah, garde ton ancienne console.
Déjà, il n'y a pas de...
C'est pas une version de la PS5 avec un lecteur vinyle ou cassette. Allez, cassette, je crois.
Pas encore, mais peut-être bientôt, hein, qui sait.
Ouais. T'as un grand rond autour, possible, c'est là, pas un ventilo, hein. C'est pas ventilo le grand rond autour, hein. C'était pour tes 8 pistes.
J'ai vu qu'il y a un type qui avait réussi, un Slovaque, qui a réussi à démarrer un ordinateur en boutant sur un disque vinyle. Donc, pourquoi
oui,
pas.
Oui, j'ai vu ça, effectivement. Mais bon, voir combien de temps le boot il prend, hein, avec combien de données tu mets dessus.
C'est la classe.
Et bientôt sur cassette, hein, Tom. Je sais qu'à l'époque, on enregistrait des jeux vidéo sur cassette, pourquoi pas faire booter.
Exactement. Il y avait
ça
même
plus
une,
facile,
j'avais déjà raconté l'anecdote, mais il y a une radio du Nord, Radio Contact, pour la pas citer, c'est plus la même Radio Contact, je sais pas si ça existe encore Radio Contact, qui un certain soir faisait une émission sur la micro-informatique, donc ce qui concernait les Amiga, Amstrad, Atari et compagnie, et qui diffusait à l'antenne des sons de jeux sur cassette. Et donc, t'étais chez toi, tu mettais ta cassette vierge, tu enregistrais la radio, tu prenais ta cassette et tu la mettais dans ton micro-ordinateur, et ça marchait, tu pouvais charger ton programme. C'était de la musique expérimentale. Ah, on aurait dû en passer, bah c'est ça.
Un jour, écoute.
On
quand
le fera
on sera de retour dans les studios, on le fera en album découverte. Alors, on va continuer dans l'agenda, et il y a un événement qui va mobiliser beaucoup de personnes, et on va se lancer également dans le challenge. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Hein. Heureusement, en France, Facebook, Twitter, Instagram, Discord, on ne sait même plus jusqu'où aller. Indiquez-nous le résultat que vous allez avoir sur ce challenge qu'on va vous proposer aujourd'hui, qui démarre d'un point évident et qu'on va appeler le Wamageddon. Wamageddon, c'est le Wham, comme on le sait, à toutes les périodes de Noël. On a la chance de réécouter toujours les mêmes musiques en boucle. Alors, on parle ici de Mariah Carey, hein, All I Want for Christmas is You. On parle de Wham avec Last Christmas. Et Dominique, toi tu en as une également.
Pas la plus connue de toutes, surtout en France, parce que Wham c'est international. Mariah Carey c'est international. Mais en France, enfin dans tous les pays francophones, quand on parle chanson de Noël, tout de suite, bien sûr, c'est Fettine Rossi, Petit Papa Noël qui vient à l'esprit.
Voilà, alors, il y a un site qui s'appelle wamageddon.com. Donc,
qui a été créé par des Suédois, je crois, en 2019. Sûrement après une soirée arrosée.
C'est une idée géniale. Alors d'ailleurs, je passe en fond comme ça la petite musique de Last Christmas, un peu pour nous mettre dans l'esprit de Noël, sachant que je ne fais pas de faux pas à la règle, puisque le défi commence le 1er décembre.
Mais si les gens nous écoutent en podcast ?
Zut,
tant pis.
Bon, je l'enlève. Je vais passer. Alors, quelles sont les règles du Wamageddon ?
L'objectif, c'est de durer le plus longtemps possible, de tenir le plus longtemps possible sans entendre, je dis bien entendre et pas écouter, hein, c'était suicidaire, tu peux écouter, sans entendre la chanson de Wham, Last Christmas.
Alors, la règle numéro 2, c'est que le jeu commence le 1er décembre et se termine à minuit le 24 décembre. Bien sûr, vous utilisez l'horaire de votre pays.
Et la règle numéro 3 et 4. Donc la règle numéro 3, c'est qu'on ne parle que seulement du morceau original de Wham. Tout ce qui est remix, cover ou autre utilisation de cette chanson est accepté, on peut l'entendre.
Les sonneries de téléphone, ça passe alors.
Bah après, si t'as ça comme sonnerie de téléphone, bon, bref. Et la règle numéro 4, c'est que tu es en dehors du jeu, enfin, tu as perdu, dès que tu as reconnu que tu as entendu cette chanson.
Il suffit d'entendre deux notes et tu dis, ah, c'est cette chanson, hop, t'es trop tard, voilà. T'as perdu, en fait.
Tu dois pas l'écouter entièrement, c'est dès que t'as reconnu la chanson, t'as perdu.
Alors, bien sûr, dans un esprit de fair play, vous l'annoncez sur les réseaux sociaux en mettant un hashtag à Wamageddon. Vous pouvez faire ça, hein, sur le site d'Heureusement en France. Est-ce que le PVP est autorisé, Dominique ?
Ben en fait, tu peux jouer dans ton coin tout seul avec ta communauté, mais tu peux aussi te lancer le défi entre amis, quoi, c'est ça. En faire une espèce de jeu de survie, tu vois, un groupe de 5-6 personnes qui se connaissent, le dernier dans le groupe qui tient sans l'avoir entendu. Peut-être qu'il paye sans la tournée ou je ne sais quoi, mais...
Alors, il y a une règle qui n'est pas marquée, qu'on pourrait mettre comme la cinquième règle. Vous ne pouvez pas envoyer des petits liens. Hein. Vous n'avez pas droit de rickroller,
c'est pas du jeu. En fait, c'est, alors, d'un autre côté, c'est assez dur parce que l'année dernière, déjà, ça avait eu du succès, mais cette année, c'est très particulier parce que peut-être que des gens ont envie de l'entendre cette chanson parce que ça va leur remonter le moral, sinon le moral en baisse. Mais surtout, comme tu peux plus aller dans les cafés, les restaurants et les magasins, enfin, en tout cas pour l'instant, t'as encore, c'est un petit peu facile parce que t'as moins d'occasions d'entendre cette chanson. Moi, je me rappelle que entre nous, on se faisait presque l'inverse du Wamageddon. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui entendait la chanson à la radio ou je ne sais quoi, on s'envoyait un SMS, on s'envoyait un message, dit tiens, il y a Last Christmas à la radio ou j'entends Last Christmas dans le métro, etc. Là, il va falloir faire l'inverse.
Je suis pas sûr, Dominique. Je pense qu'on risque d'être très surpris par la puissance du Wam.
Rien que ce matin.
Tu l'as déjà entendu.
Je l'ai entendu, mais là va. On n'était pas encore dans la période de jeu, donc c'est bon.
Moi, j'ai entendu Maria Carré. Moi. Je me suis dit, ouf,
c'est pas pareil.
Ça va. Donc voilà, hein, ne soyez pas méchants avec vos amis, vous n'avez pas le droit de leur envoyer. Et c'est pour ça qu'on ne passera pas à la radio pour ne pas éliminer tous les joueurs.
On peut passer, une reprise, mais bon. Ou une version spéciale. Tu l'as pas en version Moog ou autre, non? Après, si les gens veulent jouer, tu peux t'inventer ton propre challenge. C'est pour ça que moi, j'avais envie de proposer un challenge. Bon, je parlais de Maria. Tu peux faire le Maria Guédon avec Maria Carré. Mais Maria Carré, elle passe vraiment beaucoup, la chanson All I Want for Christmas. Par contre, le plus dur, je pense, que, surtout en France, c'est de faire un Tino Guédon. Alors, tu ne dois pas du tout entendre l'original, rien que l'original de la chanson Petit Papa Noël. C'est super dur jusqu'au 24. Faut prêter de mettre du bouchon, de la cire dans les oreilles pour être sûr de rien entendre.
Surtout ne jamais prendre le métro alors. Tu l'entends tous les jours.
Allez, c'est lancé le Tino Guédon dans Heureusement en France. Si vous entendez la chanson de Tino Rossi, envoyez-nous un message pour nous indiquer.
C'est sûrement pas sur Radio Campus qu'on l'entendra en tout cas.
Et on citera les perdants dans l'émission. Il y a le Wamageddon, ça c'est la version officielle et internationale, battez-vous avec le reste du monde. Et un qui pourrait être limite un drink game, vous devez boire dès que vous entendez la chanson de Maria Carré.
C'est pas tourné.
histoire de relancer la vente d'alcool.
Non, t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de ça pour la relancer. Hein.
Tiens, à propos de musique, et si on en passait, hein?
Allez, Reynald, est-ce que tu veux nous proposer ton choix musical dans cette formule de back-to-back spéciale vente aux enchères de vinyle?
Alors, quand j'ai fait le petit lancer de dés pour savoir quel lot m'était attribué, je suis tombé sur le lot 294, qui est un lot qui est sur le... Il est marqué punk, mais en fait, c'est du rock. Donc, j'étais bien content. J'ai pris un groupe que je ne connaissais pas au niveau des vinyles. Donc c'est vinyle 33 tours. Le groupe c'est Flaming Groovies, qui est comme je ne connaissais pas, j'ai fait un peu de recherche. C'est un groupe rock américain de San Francisco des années 60, qui est plus d'actualité maintenant, mais qui fait de la musique de ces années-là. Enfin, je pense pas qu'ils ont fait vraiment percer. J'ai pris un morceau du vinyle qui s'appelle Teenage Head. Le morceau s'appelle Dr. Boogies. With the big green eyes, I like to take you home and try you on for size. You gotta hide it, hide. You gotta hide it, hide. You gotta hide it, hide if you wanna get along with me.
Well, sweet little baby, well, you look so fine. But to be my woman, got to walk the line. You got to mow the lawn. You got to mow the lawn. You got to mow the lawn if you wanna get along with me. Mow the lawn. A book for the doctor and a book for the nurse. I'm gonna keep on being till they throw me in the hearse. I got to boogie, I got to boogie, a boogie disease. Damn it all back. Boogie with the doctor to the break of dawn. And if the band drops dead, we keep it rocking on. You gotta walk the dog. You gotta walk the dog. You gotta walk the dog if you wanna get along with me. You gotta hate it, hate. 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 You gotta hate it, hey, you gotta hate it, hey, you gotta hate it, hey. You gotta hate it, hey.
Ouais, c'était The Flaming Groovies avec Dr. Boogies. Décidément, on est bloqué dans ces années 70, et voire même un peu avant, avec les musiques de vinyle, bizarrement. Alors, vu qu'on parlait de jeux vidéo tout à l'heure et de PlayStation, il y a une étude qui a été réalisée par l'université d'Oxford et qui fait un lien entre le bien-être et le jeu vidéo. Qui est un paradoxe avec ce qu'on a pu entendre depuis des années, comme quoi le jeu vidéo n'était pas forcément très sain.
Alors, effectivement, donc l'université d'Oxford a fait une étude sur plus de 3000 adultes joueurs. Bon, attention, ils ont joué, c'est les joueurs de Animal Crossing sur Nintendo et Plants vs Zombies. Donc, c'est pas non plus tous les jeux, mais bon, ils ont pu faire des expériences en comparant justement le comportement des personnes qui jouent, ou qui jouent un certain nombre, ne serait-ce que quelques minutes, peut-être moins d'une heure, à des gens qui jouent 4 heures et plus au même jeu, pour voir les différences de comportement et de réponse des individus.
Et il est recommandé de jouer plusieurs heures par jour, voire 4 heures de jeux vidéo par jour, vous procure un bien-être supérieur à celui d'un non-joueur. Ça, c'est assez incroyable. Alors, c'est surtout important en période de confinement, et ça permet de faire travailler un peu votre cerveau.
Ça dépend du jeu.
Tu peux pas faire travailler le reste, donc. Donc, est-ce qu'il va falloir une... Alors maintenant, ça va être cadré. Tu auras une heure pour te promener, une heure pour faire tes courses, 4 heures, tu devras faire une attestation comme quoi tu as bien fait tes 4 heures de jeux vidéo.
Après, si vous avez un casque de réalité virtuelle, il y a des jeux qui vous font travailler. Je prends par exemple.
Tu peux marcher, tu peux faire ta sortie quotidienne en faisant du jeu vidéo. Je sais pas si ça compte double.
Mais est-ce que le Wii Fit, par exemple, où tu fais tes exercices de yoga ou d'un peu de sport en faisant du jeu vidéo, est-ce que ça fonctionne comme faisant du jeu vidéo ou du sport ?
Bien sûr, bien sûr. Alors là, on parle de gens qui jouent à Animal Crossing et à Plants vs Zombies. Donc, qui sont pas forcément les jeux qui vont faire le plus travailler la matière grise. Mais si t'as des jeux,
faut voir.
Je sais pas. À vérifier, hein, mais bon. Mais par exemple, t'as des jeux tels que Beat Saber ou d'autres où vous allez vraiment avoir une activité physique en plus du jeu vidéo.
Ouais, puis il peut y avoir des jeux très répétitifs, quoi. Effectivement, Animal Crossing, plein de zombies. Animal Crossing, t'as aussi de l'interaction avec d'autres joueurs, si j'ai pas de bêtises. Bon, voilà, les jeux en ligne, c'est encore autre chose. Bah, ça après, aussi, c'est important. Tous les jeux en ligne qui font appel à des communautés pendant le confinement, c'est encore plus important, surtout pour les jeunes, pour qu'ils restent en contact. On en avait déjà parlé quand on avait parlé de Fortnite et compagnie, tous ces jeux-là. C'est des jeux vidéo, mais c'est avant tout. Alors, je vais pas dire des sites de rencontres, mais des plateformes de réseaux sociaux pour les jeunes qui vont pas forcément sur Insta et surtout pas sur Facebook et compagnie. Ils se rencontrent, ils se donnent rendez-vous sur Fortnite, sur un jeu vidéo pour se donner rendez-vous, et après ils jouent, ils discutent, ils font ce qu'ils veulent.
Après, est-ce que c'est pas aussi un moment où tu, avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que déjà, quand la vie en tant que telle est un peu complexe, tu rajoutes le confinement et d'autres choses, est-ce que le fait de te cloisonner dans ta bulle en mettant ton cerveau pratiquement off, parce que effectivement les jeux précités, c'est pas forcément les jeux qui vont te demander le plus de réflexion, quoique certains niveaux de Plantes vs Zombies, bon, c'est plus des casse-têtes que du babacool à jouer, mais où tu te relâches complètement, tu te ressources, et après tu dis, bon allez, maintenant je me suis ressourcé, comme quelqu'un qui va lire pendant 4 heures, parce qu'il adore la lecture, tu vois.
Je pense que le plus important, c'est la variété, de faire des choses différentes. On peut faire une heure de jeux vidéo, une heure de lecture, une heure de bricolage, une heure de rien, à t'ennuyer, une heure de promenade, etc. C'est, je pense que c'est ça la meilleure recette, à mon avis.
Tu vois, c'est juste pour éviter la dépression ou être complètement neurasthénique, quoi.
Alors, il n'y a pas que le jeu vidéo, je pense que le jeu de rôle aussi peut combler un peu ces envies de jeu et de réunion avec vos amis. Alors on parlait d'un bundle solidaire la semaine dernière sur un événement qui est en cours actuellement, c'était la Cyberconvention. Il n'y a pas que des jeux de rôle payants, alors on a pu voir ça sur JDR Mania, ce sont des jeux de rôle gratuits. Alors, on appelle ça des JDRA. C'est des jeux JDRA, de rôle.
C'est jeux de rôle amateurs, c'est ça. Ouais.
Donc là, ça fait. Et c'est sympa, puisque vous allez pouvoir télécharger gratuitement des jeux de rôle dématérialisés qui ont été réalisés par des particuliers, quoi, qui ont.
Mais des fois même par des auteurs professionnels, hein, qui ont tellement de projets, ou qui ont des fois des projets qui sont bien achevés, mais ils vont pas les commercialiser, ou du coup, ils les donnent, c'est peut-être aussi des anciens jeux qui ne sont plus édités, donc ils les donnent gratuitement. Et ça permet aussi d'attirer les gens, en ce moment c'est vraiment critique, des gens vers une autre activité, refaire découvrir le jeu de rôle, quoi.
Après, t'as aussi ce qu'on appelle les hacks de jeux de rôle. Par exemple, il y a une personne qui a adoré un jeu de rôle bien précis, que ce soit un jeu de rôle narratif, Donjons et Dragons ou je ne sais quoi, et qui a décidé de faire sa version à lui de ce jeu, mais sur une toute petite partie du jeu de rôle en question, il l'a développé, et ce qu'on appelle ça un hack, c'est la réutilisation d'une thématique, d'un mécanisme, d'un jeu de rôle, pour en faire un nouveau jeu de rôle. Et c'est généralement une sorte de petite pièce rajoutée qui te redonne le goût, la saveur du jeu de rôle premier, mais c'est des aventures complètement différentes. Et ça, généralement, les hacks sont gratuits et sont disponibles par du jeu de rôle amateur.
Alors, parmi les jeux de rôle qu'on peut citer, qu'on peut trouver donc sur JDR Mania, alors c'est jdr-mania.com, il suffit de rechercher, il y a un article sur la liste des jeux de rôle gratuits, c'est une liste qui évolue sans arrêt. L'un des premiers qui vient, par exemple, c'est le jeu de rôle Donjon de Nahulbuck. Il existe un jeu de société qui est payant, il y a un jeu vidéo dont on avait parlé qui est payant, mais il y a un jeu de rôle qui est gratuit. C'est sur nullbub.com, il y a le lien sur l'article, et ça permet de jouer dans l'univers, et c'est un jeu de rôle sérieux, c'est pas juste un petit jeu pour s'amuser. Tu as aussi un jeu de rôle qui a été créé par un youtubeur qui est fan de Harry Potter, et il a créé un jeu, alors il a pas créé un jeu Harry Potter, parce que bien sûr, comme c'est une licence, il a pas envie de se prendre un procès derrière, même si le jeu est gratuit. Le jeu s'appelle Tu es un sorcier, et c'est un jeu où tu vas vivre les aventures d'un jeune sorcier, et un de ses amis, d'un groupe de sorciers qui sont à l'école. Tu vas pouvoir créer ta maison, comme dans les films, et évoluer au fur et à mesure des années dans l'école d'Harry Potter.
Alors, le plus connu restera peut-être Pathfinder, qui est...
Ouais, parce que ouais, c'est ça, Pathfinder, c'est une reprise qui est dérivée de la version 3.5 de Donjons et Dragons, c'est pointu, et en fait, c'est un système de jeu complet, qui est gratuit depuis plusieurs années maintenant.
Alors, est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement recopié toutes les règles pour changer le titre ?
Ils ont adapté la mécanique, mais à ce moment-là, c'est Wizard of the Coast qui avait, avec la version 3.5, donné les règles gratuitement, on va dire, juste le système. Donc tu peux faire ton jeu de rôle, utiliser, recréer des persos comme dans Donjons & Dragons. La seule chose, c'est par exemple, tu peux pas vendre. Enfin, si à la limite, tu peux même reprendre ce système gratuit et éditer, le modifier, faire ton propre jeu de rôle et même le vendre. Le seul truc, c'est que par exemple, t'as pas le droit de reprendre les monstres de Donjons & Dragons, les noms des sorts, les noms des villes, etc. Par contre, là, faut que tu réinventes ton univers, tes monstres, essayer de faire des monstres qui ressemblent, mais pas trop non plus. C'est là le risque, quoi.
Alors si ça vous intéresse de jouer donc à des jeux comme ça, vous, n'hésitez pas, il y a un site qui s'appelle rollis.net qui vous permet d'avoir un catalogue de jeux de JDRA, donc de jeux de rôle amateurs, mais également une bibliothèque de scénarios assez importante.
Des aides de jeu, des outils pour jouer en ligne, etc. Ouais. Donc, voilà. L'avantage, c'est que les jeux sont dématérialisés, donc c'est un désavantage parce que c'est toujours bien d'avoir un bouquin entre les mains. Mais avec le PDF, l'avantage, c'est que si vous jouez en ligne et par webcam avec des bots, il suffit que chacun ait le PDF et tout le monde a les lignes, tout le monde n'a pas besoin d'acheter le livre de jeu de son côté. C'est pratique.
Voilà, et pour clôturer cette émission, j'ai lancé moi aussi un petit random sur la musique de fin. Et je suis tombé sur le lot 152 de Jean-Pierre Alarsen. Alors, Jean-Pierre Alarsen, c'est quand même un drôle de nom lorsque vous vous lancez dans la musique.
Exactement.
Bah, c'est lui qui fait la musique psychédélique.
Pas vraiment, mais voilà, ça, de un le titre, enfin le nom m'a fait sourire, mais c'est un guitariste qui a travaillé notamment avec Alain Chamfort, avec Jacques Dutronc, voilà, il est un peu connu dans l'univers français et il a fait un album de musique un peu jazzy. Je vous propose d'écouter Salut Besson. Rien à voir avec Luc, Dominique, je te rassure. Et voilà, ça va être une petite musique de fin assez jazzy pour se quitter. On se retrouve.
Qu'il est déjà passé sur Radio Campus, forcément.
Voilà, faudra reste à trouver dans quelle émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
À plus.
Ciao.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.